Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous. Oula, je parle fort d'un coup. Excusez-moi de ce que j'ai réveillé. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette table ronde. Alors, sur un sujet, vous allez voir, où non seulement on devrait avoir de l'animation, mais on devrait également avoir des choses assez contrastées parce qu'on va avoir des univers très différents. Nous allons avoir un sujet autour de la théorie du complot et des complots, mais traité sous des angles très différents, puisque avec Christopher Priest et avec Jean-Michel Truong, nous aurons des romans d'anticipation et des histoires, vous verrez même, en tout cas pour ce qui est de Christopher Priest, des choses qui vont vous rappeler des souvenirs. Et puis bon, on aura avec Ariel, que je salue, et avec Grégory, nous aurons là pour le coup vraiment des romans de pure fantasy dans des univers imaginaires, mais où ça n'empêche pas qu'on complote allègrement. C'est juste peut-être que les conséquences pour nous sont un peu moins graves que chez les deux autres auteurs. C'est plus pour notre plaisir littéraire qu'autre chose. Je voulais démarrer cette table ronde avec une question à Christopher Priest. Je voulais savoir si vous arriviez encore à entrer aux États-Unis, Christopher, ou si vous étiez blacklisté.
No, I'm not blacklisted in the US, but they won't publish my new book.
Non, je suis pas blacklisté aux États-Unis, mais ils veulent pas publier mon nouveau livre.
Conséquence d'une disparition, c'est le titre français. Le titre original, c'est An American Story, une histoire américaine. Et cette histoire américaine, c'est le 11 septembre.
Yes, I kind of fucked up. I thought the Americans would be interested in the book about America. And in fact, they don't want it. You know, I mean, quite seriously, they don't want it. And but then I found out that people in Britain don't want it either. The major book chain in Britain, Waterstones, refused to handle it. And Foyles, which is the biggest bookshop in London, which is also a chain of bookstores through Britain, they wouldn't handle it. So the only sales have been through Amazon and independent bookstores, which means not very many.
En fait, honnêtement, j'ai merdé. Parce que j'ai écrit donc c'est un livre sur les États-Unis et je me suis dit que les États-Unis seraient intéressés par un livre sur les États-Unis. En fait, non, ils en ont pas voulu. Et le problème, c'est que les Anglais en ont pas voulu non plus. Waterstones, qui est une des plus grandes chaînes de librairies dans le Royaume-Uni, a refusé de prendre le livre. Foyles, qui est une des qui est la plus grande librairie indépendante, qui est également une chaîne, a là aussi refusé de prendre le livre. Donc en fait, il n'a pu se vendre qu'à travers Amazon et à travers les librairies indépendantes. Et il y en a pas tant que ça.
Quel était votre objectif en écrivant Conséquences d'une disparition?
The idea of the book is in the title in English, which is an American story. And my starting position was that the events of 9/11, terrible, awful, horrendous, were an international incident. But it took place in the USA, and therefore it falls within the USA jurisdiction, and it turns out that they own the copyright to the story. And the story you've heard about 9/11 is very much one that's been made up by the American government. And I tell you, the whole thing is untrue.
En fait, l'idée est dans le titre anglophone qui est An American Story, donc une histoire américaine. L'idée, c'est que les événements du 11 septembre, terrifiants, horribles, terribles, c'est en fait un incident de portée internationale, mais qui s'est situé sur le sol américain. Et les incidents se trouvent sous juridiction américaine, et par conséquent, c'est eux qui détiennent le copyright de l'histoire, de cette histoire. Et dans le roman, c'est que en fait, l'histoire officielle américaine est dans très grande partie une fiction, et que l'histoire que nous avons tous, c'est l'histoire que le gouvernement américain a bien voulu nous raconter. Et dans le livre, j'explique en quoi cette histoire ne tient pas debout.
May I just say one more thing? Yeah. The country that suffered most in 9/11 was actually Bermuda. In terms of head of population per capita killed that day, Bermuda was the top. And on a more personal level, I have three friends, one from Belgium, one from Holland, and one from England, all of whom were in New York on holiday that day. All three of them are young people. They've just had no political background at all. And all three of them are still traumatized by the events that they had to live through. They weren't hurt, but they were hurt mentally, psychically.
Et juste pour ajouter une chose, en fait, si on regarde le ratio des victimes par rapport à la population nationale, le pays qui a le plus souffert du 11 septembre, en fait, ce sont les Bermudes. C'est le pays qui a subi les pertes nationales les plus lourdes, si on ramène ça à leur population. Et à un titre plus personnel, j'ai trois amis, un Belge, un Hollandais et un Anglais. Ils étaient tous à New York en vacances le jour du 11 septembre. Et tous des jeunes gens sans rapport avec la politique ni rien. Et ils sont encore traumatisés de l'événement. Ils n'ont pas été blessés physiquement, mais mentalement, ils ont été traumatisés par l'événement.
On va revenir sur ce roman très particulier, assez effrayant, je dois dire, de Christopher Priest au long de cette table ronde. Et on va s'intéresser à une autre thématique où là aussi, il y a complot dans ce roman. Alors, ce n'est pas le Eternity Express que je vois sur la table là dont on va parler, mais c'est Reproduction interdite de Jean-Michel Truon, qui est un roman paru il y a maintenant une trentaine d'années, qui a été réédité récemment aux éditions Folio dans une édition un petit peu dépoussiérée, mais qui ressemble quand même beaucoup à l'original. Donc, n'hésitez pas à aller le découvrir. En n'oubliant pas que c'est un roman donc, qui a été publié il y a 30 ans et dont le thème principal est le clonage humain. Et... alors là, il faut qu'on parle un peu de narration, parce que c'est un roman qui a une narration un peu particulière. Allez, je demande à l'auteur, comment vous nous racontez cette histoire ?
Eh bien, l'histoire se raconte toute seule à travers des pièces d'un dossier d'instruction. On ne connaît pas qui est le magistrat ou l'autorité instructrice, et c'est l'accumulation de ces pièces. Donc ça peut être des procès-verbaux d'audition, ça peut être des comptes rendus de filature, ça peut être tout simplement des articles de journaux qui parlent de l'environnement ou des événements eux-mêmes ou de l'environnement de ces événements. Et c'est l'accumulation de plusieurs centaines de ces pièces qui racontent l'histoire. Et avec évidemment la complicité du lecteur, puisque c'est à lui un peu de remplir les points de suspension entre les pièces, d'imaginer ce qui se passe entre les pièces. Mais bon, apparemment, c'est pas trop difficile, l'histoire se raconte toute seule.
Alors, c'est un univers d'anticipation. On est, je crois que la plupart des feuillets sont signés d'une date qui se termine par 57. On peut imaginer que c'est 2057. En tout cas, il y a des éléments qui laissent à le penser. Donc, on est dans un futur proche, dans une société où on a réussi à donc cloner les êtres humains et où c'est devenu un enjeu économique énorme et où l'Europe et même la France sont carrément à la pointe pour le coup, puisque les États-Unis ont eu un énorme retard, puisque eux ont choisi par la loi de ne pas rentrer sur ce marché.
Absolument. J'ai voulu montrer un peu deux types d'évolution possibles, deux options possibles de dépassement de l'humain. En France, on a choisi l'option du dépassement par la biologie, et donc en fabriquant des clones industriellement. Et aux États-Unis, on a choisi la voie robotique et tout ce qui en découle. Et évidemment, les deux puissances sont... rival sur un marché qui est très important, hein, puisque il s'agit du marché de tout simplement de remplacer l'homme par soit des machines, soit par des sous-hommes, hein, d'une certaine manière, ou des surhommes, mais qui n'auraient pas l'indocilité des humains que nous connaissons. Cette rivalité donne lieu à une guerre secrète, parce qu'elle n'est pas ouverte, entre les deux puissances. Qui évidemment, les États-Unis se voient dans une situation un peu d'infériorité par rapport à la voie des clones. Elle a pris du retard, mais elle compte bien récupérer, et je ne vais pas vous raconter comment, ce retard par un complot planétaire.
Nous sommes dans le thème, parfaitement. Grégory Dorza, alors il y a un petit souci sur les images, hein, vous vous inquiétez pas, c'est en cours de réparation. On va vous mettre la bonne couverture le plus vite possible. Grégory Dorza, oui, car Grégory Dorza n'est pas Fabien Cerutti, je tiens à le dire.
Mais il est...
mais il a écrit les livres de Fabien. Alors ça sera pas réparé, on va faire abstraction de l'écran, mais de toute façon là le livre est le bon. Grégory, trilogie Sénéchal qui s'achève avec la sortie récente du troisième volet. Et alors là aussi on est en plein complot, mais alors par rapport à nos deux auteurs précédents, là on est vraiment dans un univers purement de fantasy. Nous sommes dans une ville qui s'appelle Lysimac, dont nous découvrons qu'elle est assiégée lorsqu'on y arrive, et que non seulement elle est assiégée de l'extérieur, mais qu'à l'intérieur, il y a des intrigues, il y a des traîtres, il y a des manigances, et que l'inquiétude grandit. Alors on va aussi parler narration. Peut-être Lionel, faire passer le micro. Là aussi, on va parler un peu de narration, Grégory, parce qu'il y a un élément super important, c'est que le Sénéchal en question, qui donne son titre à la trilogie, nous parle directement.
Oui, alors du coup, en fait, il nous parle directement parce qu'il parle un peu comme on parlerait à son journal intime. Donc du coup, il dit un peu « cher lecteur », il ne va pas dire « cher journal », mais il dit « cher lecteur ». En fait, pour lui, il a l'impression de s'adresser à quelqu'un. Du coup, on a vraiment une narration à la première personne. Ce qui fait que ce genre de narration permet, quand le personnage par exemple est obnubilé absolument par quelque chose, il va penser qu'à cette chose-là, il va ressentir que cette chose-là, ce qui fait que rien que par sa façon de l'écrire, il va pouvoir occulter, sans même s'en rendre compte, inconsciemment, il le fera, occulter tout un pan d'intrigue par exemple. Alors moi, je vais glisser des détails, évidemment, pour que les lecteurs comprennent ensuite le revirement de situation, mais donc il y a des... Voilà, c'est ce que permet la narration à la première personne. Alors oui, on se retrouve dans une ville assiégée, mais ce n'est pas une fantaisie militaire, c'est une fantaisie politique, je dirais même plus, c'est une fantaisie politicienne, presque. Parce qu'il y a des jeux de pouvoir, des adversaires, des ambitions, des orgueils, et ça y va de tous côtés, alors qu'on se bat devant les remparts, mais les puissants sont là, non, c'est moi qui est plus proche du roi que toi.
Alors c'est peut-être là justement qu'il faut présenter Philippe Gardeval, ce Sénéchal. Sénéchal, c'est le premier ministre, on pourrait dire ça, en tout cas. C'est...
Oui, c'est le deuxième homme le plus important du royaume, et pourtant il est roturier. Il n'est pas de noble ascendance, ce qui fait que ça engendre tout autour de lui des jalousies. Évidemment, le chancelier Othon de Ligias, qui lui est baron, ne comprend pas qu'on puisse avoir un gueux à côté du roi, et qui conseille le roi même mieux que lui, parfois. Donc il a cet office quand même, Philippe Gardeval, depuis une vingtaine d'années. Donc il est habitué à tout ça.
Il connaît toutes les ficelles.
Alors ça n'empêche pas quand même de se faire avoir quelquefois, oui. Parce qu'il y a des complots sur des complots sur des complots. On n'en finit pas dans ce truc. mais donc il se fait avoir quelquefois. Il arrive aussi à avoir quelques personnes sur son passage. Mais donc c'est vraiment un jeu de pouvoir entre plusieurs adversaires politiques, et j'ai choisi d'en faire parler un à vos risques et périls.
Ariel Holtzell, prix Imaginal l'an passé pour le premier volet des Sœurs Carmine dans la catégorie roman jeunesse. Donc là, on va aussi être à la fois dans la fantasy et puis à la fois vers un public un peu différent de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent dans cette table ronde. Et ces Sœurs Carmine, eh bien, trois tomes, parce que trois sœurs, chacune a son tome où elle est vraiment mise en avant et où on la découvre vraiment. Et il se trouve que le deuxième tome, qui s'appelle Belle de Gris, de mémoire, met en scène l'aînée des Sœurs Carmine,
oui,
Tristabel. La bien nommée.
Voilà.
Là encore, il va falloir qu'on parle de narration à un moment donné, parce que c'est quand même assez important. Est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un personnage absolument insupportable, Tristabel ?
Oui, imbuvable, irritable. Elle devient plus sympathique. C'est un peu comme du poison, plus vous vous exposez à la dose... à petite dose, et plus vous faites de la mitrilisation.
Je vais poser la question autrement. Elle a un ego de la taille de Jupiter, voire de l'univers, cette demoiselle, et c'est aussi ça qu'on perçoit par le biais de cette narration, où c'est, là encore, comme chez Grégory, c'est elle qui nous parle. Hein.
Oui, tout à fait. Alors, comme chez Grégory Darroza, le roman va vite bifurquer vers la première personne, en fait. Il commence de manière très classique, et ce personnage, Tristabel, étant tellement imbu de sa personne,
qu'elle se rend compte qu'il y a un narrateur qui raconte tout ce qu'elle est en train de faire, et ça lui va pas du tout. Elle tient à rétablir la vérité, donc elle va s'accaparer le récit et elle va s'adresser directement au lecteur en expliquant que tout ce qu'on venait d'entendre, enfin tout ce qui était écrit, était faux, et elle va donner sa version. Donc on est vraiment là aussi au cœur des pensées du personnage, et si elle s'adresse pas exactement en termes de journal intime ou de lectorat, elle pense qu'elle s'adresse à des petites voix qui sont dans sa tête et qui tendent à avoir une opinion sur elle, hein. Un peu comme sa conscience qu'elle choisirait volontairement d'ignorer et de prendre à témoin. Parfois.
L'avantage de ça, c'est que, puisque notre thème de table ronde, ce sont les complots, elle est l'instigatrice du complot principal. Puisque comme chez Grégory, on va voir qu'il y en a quand même un peu pour tout le monde. Mais donc on est dans la tête de la complotrice en chef.
C'est ça, c'était vraiment l'écriture d'un personnage de méchante, en l'occurrence, et voir les rouages, tous les mécanismes qui la font tiquer, qui vont lui permettre d'atteindre ses objectifs par des manières et des fins tout à fait inavouables. Et elle représente un peu, pour citer peut-être une série que vous connaissez peut-être, c'est un peu comme la série Dexter, je ne sais pas si vous avez déjà vu, entendu, qui est donc, vous êtes dans la tête d'un psychopathe qui va plus ou moins se justifier par rapport en aparté de ses actions, et là c'est exactement le même principe de narration, mais pour un complot qui va être un enjeu beaucoup plus léger que mes camarades, pour le coup, puisqu'on reste dans de la jeunesse, du young adulte.
Une ascension sociale.
C'est ça, c'est plus... Ça fait peut-être un peu penser à Mervyn Peake, si vous avez lu Titus d'Enfer, le personnage de... Je crois que je me souviens que de son nom en anglais, le cuistot qui désire devenir remplacer en fait le commis de cuisine, du moins qui veut devenir le nouveau comte de Gormangast. Voilà. Je me souviens plus, Stormpike, enfin quelque chose comme ça.
Christopher Priest, vous avez donc travaillé pour ce livre qui met en scène un journaliste dont la compagne a disparu le 11 septembre et qui, longtemps après, des années après finalement, puisque nous sommes dans un roman d'anticipation et qu'il se déroule donc dans un futur très proche, encore plus proche que le livre de Jean-Michel, on est en 2020 et quelques, va d'un seul coup, pour diverses raisons, se retourner sur ce passé, ses souvenirs, et puis voir que petit à petit, il y a quand même beaucoup de choses dans son passé qui font que le doute s'instille. Comment avez-vous travaillé sur cette histoire ? Parce que j'imagine qu'il y a de la recherche documentaire, mais que ça se passe dans un contexte un peu particulier, puisque c'est celui de la théorie du complot. Et donc, on va trouver tout et n'importe quoi.
Turning to the general subject of the panel that we're talking about, I don't know about other people, but I'm always quite interested in conspiracy theories. They're quite attractive, and they're attractive in the way that a lot of science fiction and fantasy are attractive. Because they're an alternative way of thinking and a different way of seeing, and that makes you question your own sense of reality. The problem is, a conspiracy has to have more than one person. So you have at least two people who think the same. And the moment you have two people thinking the same, then it loses its interest. And the more people who think the same, and the greater the theory becomes passed around, the less and less interesting it becomes. And when you meet these people, you suddenly find that they're not interesting at all, that they're bores. They go on endlessly about this. And so when I started getting interested in 9/11 as the way the American government has reported it, the official version, which is freely available in libraries and bookshops all around the world. You can find it for yourself. You find out it's a pack of lies. There's provable science is wrong. So from my point of view, I think, well, what is right? And you then find that much of that provable science has been destroyed, that the discussion of it has been destroyed by unprovable idiots with conspiracy theories. So it's very difficult to get through the conspiracy theories, which are legion, and find quite likely what is the real alternative thinking. And that alternative thinking is there. You can find it. It's real. But, of course, it's now, because they don't want to talk about it anymore, the FBI, the CIA and the US government all say there is nothing more to discuss. The commission has found, and that is the total answer, whereas in actual fact that the formal findings of the commission are full of scientific errors. I won't go on any longer, but there are hundreds of them.
Alors, je voudrais reparler un peu du sujet général, un peu de notre table ronde, qui est donc la théorie de la conspiration. Je ne sais pas pour les autres personnes, mais moi je trouve que les théories de la conspiration, c'est très attirant, à la manière que l'imaginaire, la science-fiction, la fantasy, c'est attirant, parce que ça représente une façon différente de penser, de voir les choses, et ça fait questionner et s'interroger sur la réalité. Le problème, c'est que pour qu'il y ait une théorie de la conspiration, il faut qu'il y ait plus d'une personne. Il faut qu'il y ait au moins deux personnes qui pensent de la même manière. Et en fait, plus il y a de personnes qui pensent de cette manière-là, moins ça devient intéressant. Plus la théorie devient de plus en plus vaste et échangée, etc., moins ça devient amusant, quelque part, ça perd son attrait. Et quand on rencontre les gens qui sont les artisans de ces théories, on se rend compte que c'est des gens extrêmement barbants, qui ne savent parler que de ça, et ça devient beaucoup moins intéressant. La raison pour laquelle je me suis intéressé au 11 septembre, c'est que la manière dont le gouvernement américain, le rapport officiel du gouvernement américain sur l'événement, la manière dont il est présenté, le rapport officiel, qu'on trouve gratuitement, qui est disponible dans beaucoup de librairies à travers le monde, en fait, c'est un tissu de mensonges. Et il y a énormément de choses scientifiques qui ne tiennent pas debout dans ce rapport-là. Alors du coup, ça fait se poser la question en se disant, quelle est la vérité? Qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est que une grande partie de ces faits scientifiques qui pourraient être démontrés a été enfouie ou carrément détruite par tout un tas d'idiots qui discutent de leur théorie de la conspiration et qui parlent de trucs qui sont simplement pas plus démontrables non plus. Donc c'est vraiment difficile d'étudier ce sujet et de traverser tout ce tissu de théorie de la conspiration. Et ça pose la question en se disant qu'est-ce qui se passe? On peut creuser, on peut trouver des choses. Il y a des gens qui parlent de faits scientifiques qu'on ne trouve pas dans le rapport officiel de la commission du 11 septembre. Mais beaucoup de ces gens-là, en fait, ils ne veulent plus en parler, entre autres parce que le CIA, la CIA et le FBI a dit c'est bon, il n'y a rien à voir, circuler. Le rapport officiel et toutes les réponses qu'il a à savoir sur cet événement se trouvent dans le rapport officiel de la commission du 11 septembre, et c'est tout ce qu'il y a à dire, c'est tout ce qu'il y a à voir, il n'y a rien d'autre à trouver. Mais en fait, quand on étudie ce rapport-là, il y a des tas d'erreurs formelles. Je ne vais pas vous en parler en détail, mais il y a des centaines d'erreurs formelles et scientifiques dans ce rapport-là qui ne tiennent pas debout, en fait.
D'ici à ce que l'assassin de Kennedy était dans un avion, on n'est pas loin.
The half an hour before the first plane hit one of the towers, there was a large explosion in the basement of the World Trade Center 1. It was sufficiently large for people killed by it that the fire brigades, the Bombier, and the police were called. TV camera crew went out, and a helicopter overhead filmed it. And a lot of that, the TV crews interviewed a lot of people. They were covered in debris. They had, their hair was on fire, and they'd had a bad time. And they were talking about being blown off their feet by this explosion which came up from below. And then the plane went in. And at that moment, that explosion, the first explosion, completely vanishes. There's no record of it. The footage can be found. The television footage that they shot, it's never been broadcast, but it is people have found it and put it up on the internet. And I sort of think, what is that? I mean, is that incompetence, or is that somebody trying to deny something or they're trying to cover something up. It's not that I think it's a conspiracy. I just think, what the hell's going on? And when you go through the whole story, you find that examples of similar sort occur again and again, and you cannot trust the government.
Par exemple, une demi-heure avant que le premier avion ne percute la première tour, le World Trade Center 1, il y a eu une immense explosion qui a eu lieu dans la base et la fondation de la tour, qui a été une explosion d'importance suffisamment large pour que des gens laissent la vie. On a envoyé des pompiers, la police, la télé, il y a eu un hélico qui est venu pour aller filmer tout ça. Ça a déclenché un incendie. Il y a donc toutes les équipes de télé ont filmé l'événement. Ça a été une explosion suffisamment large pour que ça projette des gens. Hein, donc, et ça a été vraiment assez difficile. Et là, une demi-heure plus tard, le premier avion est venu et a percuté la tour. Et en fait, dans le compte-rendu officiel, cette première explosion, il n'y en a aucune mention. L'événement a littéralement disparu. Alors on peut trouver le reportage qui a été filmé, les interviews, etc. Mais ça n'a jamais été diffusé. Il y a des gens qui ont déterré ça et qui l'ont mis sur Internet, mais ça n'a pas été diffusé à la télé. Alors du coup, moi je me demande... Enfin, qu'est-ce qui s'est passé, quoi ? Est-ce que c'est une question d'incompétence ? Est-ce qu'il s'agit de nier quelque chose, de couvrir quelque chose ? Je sais pas. Je suis pas dans la théorie de la conspiration. Simplement, je me demande, en gros, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Quand on creuse ce qui se passe avec dans l'événement, tout le déroulé de l'événement du 11 septembre, des exemples comme ça, il y en a plein. Et du coup, je sais pas. Mais du coup, la seule chose que je peux me dire, c'est, il est difficile. On peut pas faire confiance au compte rendu officiel du gouvernement sur l'événement.
Jean-Michel Truong, reproduction interdite, ça démarre par deux événements très proches. Le premier, c'est une émeute dans une prison. Et ce que vient de dire Christopher Priest résonne assez particulièrement, puisqu'on va se rendre compte qu'au fur et à mesure, les découvertes autour de cette émeute vont donner des réponses assez surprenantes par rapport à ce qu'on imaginait au départ. Et puis le suicide d'un vieil homme dans un hôtel, qui là aussi peut sembler un peu suspect dans les conditions. Votre idée de départ dans Reproduction Interdite, c'était déjà qu'il y ait cette affaire de complot. Et comment est-ce que justement, comment est-ce que vous êtes venu à démarrer cette histoire de complot avec ces deux événements ?
Pardon. En fait, mon idée, c'était de comploter contre mon lecteur.
Ah bah vous remercie.
D'ailleurs, c'est pour ça que il n'y a pas de narrateur. Et il n'y a pas ce Deus ex machina qui dit au lecteur ce qu'il doit penser des événements, qui lui présente les événements qui sont pertinents et qu'il a à prendre en compte dans sa reconstruction des événements. Il y a simplement des pièces, d'accord ? Mais ça, c'est tout à fait volontaire. C'est une manière d'évacuer le narrateur, au moins en apparence, de la narration. Et de laisser, comme je le disais tout à l'heure, le lecteur se faire sa petite histoire. Il se raconte des histoires. Et mon complot à moi contre mon lecteur, c'est de l'amener à se raconter une histoire complètement bidon, complètement fausse, et en étant certain qu'il découvre la vérité. Et de ne lui révéler qu'à la fin... l'histoire qui s'est bâtie, et l'amener ainsi à réfléchir un peu sur son propre mode de narration, comment il reconstruit le réel à partir d'éléments forcément lacunaires, puisqu'il n'a pas tous les éléments en main, et comment il donne une cohérence à cette réalité lacunaire en fonction de ses propres projections. D'accord, de le mettre un peu en défaut par rapport à cette anticipation qu'il fait des causes des événements.
Au cœur du livre, il y a un personnage qui s'appelle Norbert Rettinger, si je prononce bien, qui est un magistrat, un jeune juge en bois brut, on pourrait dire, reprendre, et dont on comprend finalement petit à petit qu'il n'est pas là simplement par hasard. Qui n'est pas juste le juge qui va se retrouver à devoir mener l'enquête, instruire sur l'incendie et l'émeute dans la prison, mais que il a peut-être un autre rôle à jouer dans tout ça.
Oui, mais encore une fois, ce rôle, il ne lui est pas imposé de l'extérieur. C'est un rôle qu'il se découvre. il découvre quelle est sa vocation dans cette histoire à mesure que l'histoire se déroule, en fait. Et, bon, il a des raisons, il a un certain nombre de raisons de se comporter comme il le fait, des raisons personnelles, mais le sens de sa vie ne se fait jour qu'à mesure qu'il avance dans sa propre histoire et qu'il découvre qu'il est là pour une certaine chose qu'il ne soupçonnait pas au départ.
On parlait de personnages orgueilleux avec Grégory et Ariel. C'en est un aussi, Norbert.
Oui, oui. Oui, bien sûr. C'est quelqu'un qui est... D'abord, il est droit. Il est issu d'une lignée de magistrats, tous plus dignes les uns que les autres. Et peut-être que cet héritage qu'il a fait que, face aux événements qui vont se présenter à lui, il va, c'est un peu comme vous êtes sur une... sur une ligne de crête extrêmement étroite, et puis c'est Ignace de Loyola, c'est la métaphore d'Ignace de Loyola, le fondateur des Jésuites, hein. Vous êtes carrément sur une corde raide, et puis vous avez le choix de tomber à droite ou à gauche, et il suffit d'une pichenette du destin pour que votre destin bascule à droite ou à gauche. Et lui est donc sur cette corde et va découvrir un événement dans le cours de l'histoire, va le faire basculer complètement, et c'est là qu'il découvre quelle est sa véritable vocation.
Ce qui fait du livre un vrai thriller, c'est que la tension monte en permanence, et pour une raison toute simple, c'est qu'on ne sait rien. C'est qu'on n'a pas de repères,
oui.
On n'a pas de clé auquel se raccrocher, on n'a pas un méchant à identifier immédiatement.
On ne sait pas qui est le méchant. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un méchant dans cette affaire?
C'est une bonne question.
Il y a un méchant,
est-ce qu'il y a des gentils?
En fait, mon projet était d'évacuer complètement la première personne de ce récit. Il y a le sujet. Hein. Il n'y a pas de sujet d'action, il n'y a pas de sujet de décision. Il y a des décisions qui se font, qui se prennent, et il y a des actions qui se déroulent sans qu'il y ait de sujet pour les dérouler ou pour les prendre. Et j'ai un peu voulu... j'ai comploté de manière à ce que ça se passe comme ça.
Et on verra, parce qu'on ne l'a pas dit, mais en fait, il faudrait mettre complot au pluriel quasiment dans la totalité des livres, puisqu'il se passe quand même énormément, énormément de choses.
C'est des complots emboîtés.
Exactement, des gigognes. Grégory, c'est intéressant ce que vient de dire Jean-Michel, parce qu'en l'écoutant, je me disais, il y a à la fois des choses très proches de ce que vous avez fait, vous, pour Sénéchal, et d'autres qui sont radicalement à l'opposé, puisque là, Jean-Michel a expliqué qu'il avait éliminé le jeu, alors que vous, c'est totalement l'inverse. Et pourtant, les objectifs, quand je l'écoute, ça me semble quasiment être un peu les mêmes.
Les objectifs, ils sont un peu les mêmes. Et par contre, j'ai eu le cheminement inverse, c'est-à-dire que le jeu est très, très présent chez moi et presque il prend toute la place, quoi. Donc, la question...
Non, mais c'était ça, mais je vais la compléter. C'est que ce jeu, il apporte un élément très important qui fait que le lecteur, on parlait de ne rien savoir, là, on a un point de vue unique. Est-ce qu'il nous dit la vérité? Est-ce qu'il l'arrange à sa sauce? Est-ce qu'il nous ment carrément? On a, avec ce jeu, une ambiguïté qui apparaît dans le personnage qui est très troublante.
Ouais, le jeu apporte une ambiguïté, et c'est là où j'aurais envie de changer le titre de la conférence carrément et de mettre, au lieu de recherche de la vérité, recherche des vérités. Parce que vraiment, tout le monde a sa vérité, le Sénéchal en premier, le baron de Ligias aussi. Et à la fin, presque, on termine avec une vérité, mais est-ce qu'elle est complètement admise? Est-ce qu'on peut l'admettre vraiment? Et même l'histoire, qu'est-ce qu'elle va retenir de cette vérité-là? Moi, j'adore ce principe-là de donner un peu les clés plus loin dans le temps. Qu'est-ce que c'est devenu? Et finalement, qu'est-ce que l'histoire a retenu de tout ça? Et est-ce que ça cadre parfaitement avec ce que le Sénéchal, par exemple, nous a raconté dans son journal intime, quoi, finalement? Donc, le jeu permet une ambiguïté. Ça, c'est indéniable. Mais jusqu'à quel niveau? Est-ce qu'il ment par omission? Est-ce qu'il ment tout court? Ou est-ce qu'il a juste rien compris à ce qui se passait devant lui? Il y a beaucoup de causes possibles, et ça, c'est au lecteur de... Alors, j'ai bien aimé la phrase qui disait qu'on complotait contre les lecteurs, mais c'est exactement ça.
Voilà,
c'est-à-dire qu'on vous ment. On vous ment.
Ça rappelle un roman d'Umberto Eco qui s'appelait Baudolino, où le personnage partait très loin au Moyen-Âge et revenait avec des tas de légendes, dont celle du prêtre Jean, etc. Et c'était toute une allégorie du romancier à travers le mensonge qui était absolument passionnante.
Alors, d'Umberto Eco, moi, j'ai beaucoup puisé, enfin, je me suis beaucoup inspiré du nom de la rose, par contre, pour au Sénéchal.
Il y a un autre aspect important dans la narration, c'est l'unité de temps. Là aussi, quelque chose d'assez original et assez peu courant en fantasy, c'est-à-dire qu'on est quasiment en temps réel.
Et ouais, ça intensifie le complot, en fait, je trouve. Enfin, cette idée de complot, d'oppression, c'est qu'on a tellement la tête dans le guidon, ça va vite. Chaque chapitre est égal à une heure, à peu près. Et du coup, les parties, c'est plus des jours. Donc le premier tome, c'est en trois jours. Ce qui fait qu'on a tellement la tête dans le guidon que je pense qu'on a du mal à prendre de la hauteur, même en tant que lecteur, de comprendre un peu tout ce qui se passe. Les forces qui sont en présence, tout ça. Et ouais, c'est cette idée de huis clos, étant donné qu'on est dans une cité assiégée, cette idée de huis clos qui encore augmente parce qu'on est avec une narration à la première personne qui presque nous étouffe des fois, on est dans le jeu, et encore le huis clos qui se resserre avec le temps qui est très très court. Et voilà.
Politique, on l'a dit tout à l'heure, mais religion aussi, puisque c'est quelque chose qui tient une place importante. En tout cas, on le comprend au fil de la trilogie.
Moi, je vois tellement peu de différence entre la religion et la politique. Enfin, surtout au Moyen-Âge, je dois dire que les archevêques, les évêques, qu'ils soient barons ou marquis, pour moi, ils géraient des domaines. Enfin, voilà, c'est tout. Donc oui, la religion a une part importante.
C'est des parts de marché, quoi. Et puis des territoires à conserver.
Un peu, mais presque je pars du principe que les moins croyants de tous là-dedans, ce sont les religieux, finalement. Donc... Donc oui, il y a aussi des complots religieux, enfin, ce qui permet d'avoir plusieurs motivations pour les personnages. Il y a le complot politique d'une part, il y a le complot religieux d'autre part, il y a quelqu'un qui par exemple voudrait juste se venger de ce qu'il a vécu, donc ça c'est encore plus l'amour, la vengeance qui vient, donc voilà, ça permet d'avoir plusieurs... Enfin, le complot c'est quand même magique pour l'auteur parce que c'est un moteur d'intrigue qui nous permet de vraiment créer une intrigue, et pour le lecteur c'est un moteur de suspense en fait, donc ça fait intervenir, enfin ça aide les deux, quoi.
Ariel Hölzel, allez, disons-le, l'ambition de Tristabelle, c'est de devenir la dame de compagnie de la reine, et plus si affinité ou si possibilité, mais pour cela le chemin est long. Et alors son complot à elle, c'est finalement d'aller étape par étape. Et donc évidemment, on va les découvrir, nous, au fur et à mesure, sans avoir la vision globale de ce qu'elle envisage, de son plan. Elle ne va pas nous expliquer au premier chapitre, alors je vais faire ci, ça, 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 ça. J'imagine que ça a dû être assez amusant d'élaborer ce complot au fur et à mesure pour ensuite le raconter petit bout par petit bout.
Alors particulièrement sur cette notion de cheminement, de construction pour un public quel qu'il soit, d'un complot ou d'une intrigue un peu policière, et pour rebondir sur ce que disaient Grégory et Jean-Michel, je trouve qu'on touche là, particulièrement quand on parle de recherche de la vérité, à quelque chose qui, dans des termes qu'on utilise plutôt dans le cinéma, est la différence entre l'ironie dramatique et l'ironie spectatorielle. Pour reprendre les leçons entre Alfred Hitchcock et Truffaut, je crois, il expliquait que, par exemple, l'ironie dramatique, c'était le fait d'avoir deux personnes à un dîner et des plans sous la table qui vous montrent une bombe avec un compte à rebours. Ça crée du suspense. Vous êtes le spectateur, vous avez cette information. Les personnages ne l'ont pas. L'opposé, l'ironie spectatorielle, ce serait que les personnages ont une information que vous n'avez pas. Ce qui est, par exemple, le cas quand on a un narrateur sur lequel on ne peut pas compter, comme dans le roman de Grégory, ou si on multiplie les pistes pour embrouiller le lecteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le lecteur... Oui, donc dans l'exemple... Si les deux personnages continuent à manger en sachant que la bombe ne va pas exploser, mais que vous avez le suspense, quand vous voyez le décompte arriver, vous êtes surpris parce que ça n'explose pas. Et par contre, les personnages ne le sont pas. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dès qu'on présente une intrigue, quelle qu'elle soit, que ce soit un complot, donc une enquête où il faut trouver un coupable, le lecteur est malin, le lecteur moderne, et vous êtes très malin, vous êtes au moins aussi malin que nous, on l'est peut-être un peu plus ou un peu moins de temps en temps, et il n'y a que deux dénouements possibles. Soit à la fin de l'intrigue, vous avez compris qui était le coupable, où tombent les pièces sur l'échiquier, soit vous n'avez pas compris. Ce sont les deux seules possibilités. Et je pense que le travail de l'auteur, ça va être de se placer d'un côté ou de l'autre de la barrière. Donc on peut choisir d'essayer de tromper son lecteur pour le surprendre sur le final, ou on peut décider, ce que j'ai fait, pas dans le tome dont nous parlons, mais dans mon premier tome qui s'appelle Le complot des corbeaux, en sous-titre, donc qui était peut-être tout aussi approprié.
C'est vrai.
Et qui est aussi un complot. Mais j'ai choisi, en fait, dès le premier tiers de ce tome-là, de révéler tout au lecteur. Le lecteur est entièrement, à moins qu'il soit vraiment très très stupide, ce dont je doute, tout le monde comprend très vite.
Je tiens à dire que c'est pas moi qui l'ai dit. Pour une fois.
Je crois que tous les lecteurs, ou du moins tous mes lecteurs, sont très intelligents.
Tu t'es bien rattrapé.
Voilà. Et donc je choisis de révéler aux lecteurs, aux lectrices, dès le premier tiers du livre, tout ce qu'ils ont à savoir sur ce complot. Donc il n'y a plus de surprise dessus. Mais vous, vous êtes dans une position de force par rapport aux personnages qui, eux, vont être totalement dans le brouillard, dans la brume. Et votre amusement va venir du fait, ce petit sentiment de supériorité sur le fait d'avoir des informations qu'eux n'ont pas, et vous les voyez un peu comme des rats dans un laboratoire, dans un labyrinthe, pardon, essayer de s'en sortir. Et donc, je pense que c'est un choix vraiment narratif, important, sur cette recherche de la vérité. On le voit aussi dans des exemples, vraiment, encore une fois, de pop culture, toutes les séries télé où les gens échafaudent, je ne vais pas vous citer Game of Thrones, parce que je pense que vous êtes très déçus.
Vous avez tous vu la fin ou non, non.
Bref, peu importe, pas de spoil ici, pas de divulgachi. Et donc, oui, avec la multiplication d'Internet, les théories, c'est très difficile de surprendre le lecteur. Donc moi, je suis parti du principe que maintenant, les lecteurs sont beaucoup trop malins pour moi. Et donc, je n'essaye pas de les surprendre, j'essaye de les amuser en leur montrant des personnages qui, eux, ne comprennent pas.
Ça passe par un élément, et là, on revient à la personnalité justement de Tristabelle aussi.
Oui,
c'est que son aveuglement vient de son ego. D'une certaine manière, et qu'elle est tellement sûre qu'elle va réussir son coup, qu'elle ne s'en rend pas compte de ce qui se passe autour d'elle, et que le lecteur, lui, soupçonne, découvre petit à petit, ou comprend par un certain biais, etc. Mais qu'autour d'elle, c'est une véritable hécatombe, et que dans son sillage, il y a des cadavres à la pelle, et qu'elle, alors elle s'en rend absolument pas compte, et puis à la limite, elle s'en fout, quoi.
Oui, totalement, ça ne la touche pas vraiment, mais il n'y a pas grand chose qui la touche de toute façon. Et oui, elle est complètement aveuglée par son orgueil, et elle ne s'aperçoit pas qu'il y a des complots gigognes, il y a d'autres complots qui sont en parallèle de son propre complot et qui vont la faire tomber ou la faire réussir.
Voilà, là aussi, il y a moyen de beaucoup s'amuser. Christopher Priest, vous avez choisi de mettre en scène dans Conséquences d'une disparition un personnage central qui est journaliste. Étant donné le sujet de cette théorie du complot, c'est un choix précis qui vous a mené à ce que ce soit un journaliste qui se retrouve au cœur de cette histoire.
Tell the truth. I needed a protagonist who didn't go to work and had stayed at home all day, so he could get involved in the story.
Pour être très honnête, pour raconter cette histoire, j'ai besoin d'un protagoniste qui n'aille pas travailler et qui reste chez lui et qui puisse passer son temps à enquêter sur l'histoire.
I wanted to speak to what he was saying, yeah, about the dramatic irony, which is very interesting. It's a very strong, very effective way to write fiction, where the reader is in possession of facts. I mean, for instance, like a lot of theatre, like Molière's plays are based on the fact that the audience knows more about what's going on than the characters, and from that you get a lot of laughs and excitement. But I don't think that makes it a conspiracy. I think it's a way of presenting the plot. And you made me think about the technique that I've often used, a lot of writers use, of the unreliable narrator. And that is somebody who tells the truth, never consciously lies, speaks only in facts, all of which are checkable. And yet it turns out that the reader eventually has to realize that there has been a lot not said. And so that the reader is made to work. They're not just treated as clever, I mean, I don't think my readers are clever. I think they're lazy. Want the buggers to work, you know.
Je voudrais revenir sur ce que disait Ariel sur l'ironie dramatique. En fait, je pense que c'est une manière très efficace d'écrire de la fiction, où on a donc justement un public qui en sait plus que les personnages de l'histoire. C'est un procédé qui a été extrêmement utilisé, par exemple dans les pièces de Molière. L'audience en sait plus que les personnages, ce qui permet d'avoir un effet comique. Mais je ne suis pas sûr que c'est vraiment une manière de conspirer. Je pense que c'est une manière de présenter une intrigue. C'est une technique que j'ai beaucoup utilisée, que beaucoup d'auteurs ont utilisée, et que finalement ça me fait à laquelle ça me fait penser, c'est le narrateur non fiable. Et en fait, c'est un personnage qui raconte la vérité, qui ne ment pas, qui expose que des faits qui sont vérifiables. Mais au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été dites. Et du coup, ça fait travailler le lecteur. Et moi, je ne pense pas que mes lecteurs sont spécialement intelligents. Je pense que c'est des gros paresseux et qu'il faut les faire travailler.
That of course excludes everyone here today.
Bien sûr, ça ne vous concerne pas, vous êtes super.
Non, c'est trop tard, je suis très vexé déjà. Quels sont les retours que vous avez sur ce livre, Christopher Priest?
Not a lot. Actually, it's had very few reviews. It's the most reviews I have were in France. It's been treated by the French as my next novel. I think in the English language speaking world, people are a bit embarrassed because it's telling them things they don't really want to know. And it's a process called cognitive dissonance. I don't know how that translates. I'm sure my Lionel will help me there. But cognitive dissonance is when you erect an understanding of the world, which is based on your experience, but what you choose to believe and so forth. And then somebody comes along and says, no, it's not like that at all. And at that point, you have to sort of either accept it, and this questions everything that you've known to that point, or you have to reject it. Now, my novel, Consequence, is specifically about cognitive dissonance. It's about the fact that the great public who have listened to the American government's version of what happened are happy with that story. They don't want it changed, because to do so will bring into question all sorts of things they don't want to question, like the effectiveness of the American defense system, which was completely penetrated that day, or the truthfulness of the president, or indeed these days the moronity of the president.
Pour être honnête, des retours, j'en ai pas eu beaucoup en fait. J'ai eu très peu de critiques. La plupart viennent de France, où ce livre a été traité comme mon nouveau roman tout à fait normalement. Mais le monde anglophone en a très peu parlé. Et je pense qu'ils sont très embêtés avec ce livre. Parce que je pense qu'il dit des choses qu'ils ont absolument pas envie d'entendre ou absolument pas envie de savoir. En fait, c'est un phénomène qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que, en gros, vous avez une compréhension du monde qui est basée sur votre expérience, sur les choses que vous choisissez de croire. Et imaginons qu'il y a quelqu'un qui arrive et qui vous dit non, c'est pas du tout comme ça. C'est complètement différent. Et alors là, vous avez le choix vous avez deux possibilités. Soit vous acceptez ce que cette personne vient vous dire, mais ça veut dire qu'il faut vous questionner tout, en fait. Tout ce que vous saviez jusqu'à maintenant. Ou alors, vous le rejetez. Et en fait, conséquence d'une disparition, ça parle exactement de la dissonance cognitive. Et en fait, le public au sens large a écouté le récit et l'explication du gouvernement américain sur le 11 septembre, et ils se satisfont complètement de cette histoire-là. Ils n'ont absolument pas envie que ça change. Parce que si jamais ils acceptent, c'est justement que c'est pas comme ça. Ça veut dire qu'il faut questionner énormément de choses qui sont inconfortables. Par exemple, il faut s'interroger sur l'efficacité du système de défense américain qui a été complètement vaincu ce jour-là. Il faut se questionner également sur la véracité ou, ces jours-ci plutôt, la grosse bêtise de ce que le président raconte.
Jean-Michel Truong, avant de nous quitter, un petit mot, puisque je vois qu'Eternity Express est sur la table, sur ce roman également. Alors, je ne sais pas si on peut forcément parler d'un complot au sens où on vient de l'évoquer, mais on est quand même dans un projet particulier. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Michel, il faut quand même que vous sachiez que c'est un romancier extrêmement provocateur. Et le thème d'Eternity Express est quand même d'une immense violence. Est-ce que vous pouvez nous rappeler de quoi parle ce roman ?
Il parle de l'élimination des vieux qui sont des bouches inutiles. Et donc, comme solution, au problème du financement des retraites. Et donc il y a un système industriel qui est mis en place. Et le lien, je voudrais faire le lien avec précédemment. Dans ce roman, j'ai choisi de raconter la vérité au lecteur. Et mon pari, c'était qu'il ne verrait pas que c'est la vérité. Et qu'il ne verrait surtout pas que ça s'est déjà passé, dans un passé récent. Que tous ces événements que je décris, concernant ces vieillards qui montent dans un train pour une destination lointaine à l'est, se sont déjà passés. Et mon pari, c'est qu'il ne découvre, c'était qu'il ne découvre ce qui se passe réellement, ce qu'est réellement ce train, et tous les autres qui prennent la même direction, parce qu'il s'agit de millions de personnes qui sont envoyées en Chine dans des lotissements de rêve pour y passer le reste de leur jour. Eh bien que ces événements ont déjà un modèle, plus qu'un modèle, ils ont déjà été vécus grandeur nature, et le lecteur ne s'en rend compte que, beaucoup de mes lecteurs ne s'en sont rendus compte que en lisant les trois dernières pages. Et ceux qui sont venus me voir en me disant « oui, oui, je t'ai vu venir quand même », sont la minorité. Bon, vous voyez bien à quoi je fais allusion. Là, je leur raconte la vérité, mais la réaction, c'est non, il va pas nous ressortir ça, c'est pas possible. Il n'osera pas faire ça. Il doit s'agir d'autre chose. Et dans les trois dernières pages, on se rend compte que ben oui, il l'a fait. Il s'agit bien de la même chose. Et mon but, c'était évidemment que le lecteur, après avoir fermé la dernière des trois pages, et donc la dernière des pages du bouquin, se dise après tout, pourquoi pas. Mais...
Oui, peut-être pas quand même. Grégory Darroza, le troisième tome, donc, qui est sorti... le plus récemment, logiquement, et que certains n'ont peut-être pas encore lu et vont profiter des imaginales pour l'acquérir et terminer ce cycle, c'est celui de toutes les révélations, normalement, logiquement. C'est aussi un tome qui est très différent des deux autres dans le rythme. Il se passe énormément de choses, ça va beaucoup plus vite encore que dans les deux premiers.
Ah bah, en fait, le troisième, c'est parce que tous les complots pètent à la tête de tout le monde. Donc oui, là, on y va. Le premier tome, ça, j'ai vraiment placé, j'ai présenté tout le monde. Voilà. C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. Lui va mourir dans deux jours, lui dans trois. Et le deuxième tome, là, je fouille un peu plus dans les personnages, dans les contextes géopolitiques, religieux. Et le troisième, une fois que j'ai bien posé tout ça, on y va. On fait sauter des têtes et ça y va. Et donc la vérité, les vérités éclatent. Voilà pourquoi le troisième est si différent, c'est parce que je le voulais vraiment comme un... Mais je pense que ça monte quand même en tension. Alors une tension un peu différente, au début le premier est plutôt calme, le deuxième est... Enfin plutôt calme, il y a quand même des moments où ça...
Oui.
Mais le deuxième
Il se passe des choses. Hein.
Très tendu, il s'étire, on sent que c'est très oppressant. Et c'est là le troisième où... Ouais, c'est le champignon atomique quoi en fait. Vous visualisez un champignon atomique, ça fait premier tome, deuxième tome, troisième tome, voilà.
Ariel, pour terminer ce tour de table, la Belle de Gris, oui. C'est une fin totalement amorale, mais ce qui finalement est assez cohérent avec la famille Carmine, qui est elle-même, on va dire, un système de valeurs qui lui appartient, qui lui est propre et qui est assez particulier. C'était aussi intéressant pour vous de travailler sur... des archétypes où on ne soit pas forcément dans une certaine norme de dire, bah voilà, à la fin, les méchants sont forcément punis, et puis les gentils l'emportent.
Je pense que dans la genèse de la saga, déjà, j'ai vraiment imaginé une société qui soit le plus éloignée de la nôtre au niveau des valeurs morales, en essayant de repenser une société où l'intégrité physique ne serait pas placée par le droit ou par la morale comme la valeur absolue. Donc c'est un endroit où la ville où tout cela se situe s'appelle Grisaille. C'est un endroit assez sinistre où tout le monde s'entretue pour un oui pour un non, même si c'est puni par la loi, du moment que c'est bien fait et que on passe entre les gouttes, ça n'a pas vraiment d'importance. Les conséquences morales n'existent pas dans ce monde pour 99% des habitants. Et oui, c'était vraiment prendre le contre-pied des héros ordinaires, même des anti-héros, des anti-héroïnes habituelles.
Vous avez dans vos lecteurs, parmi les retours que vous avez, des fans, chacune des trois sœurs. Oui.
Alors, curieusement, le noyau dur des fans se situe sur le deuxième tome, sur Tristabelle, donc, qui est la beauté sociopathe de la bande. Ça en dit beaucoup sur mon lectorat, je pense. Même peut-être pour rebondir sur ce que disait Christopher par rapport à ses lecteurs qui sont paresseux. Et moi, je pensais que mes lecteurs étaient très, très malins. C'est peut-être aussi parce que j'écris des romans jeunesse. Donc vous êtes non seulement jeune, mais en plus intelligent quand vous lisez mes livres. Et vous ne risquez pas de finir dans un train avec Jean-Michel. Et oui... La deuxième favorite va être la petite dernière qui elle est un peu particulière aussi.
Dolorine.
Celle qui a pour le coup le moins d'adeptes, c'est la première, c'est Mary Vert qui elle est beaucoup plus neutre.
C'est la plus normale.
C'est d'ailleurs, oui, elle est complètement, elle est anormale par sa normalité puisque dans cette société, si vous n'êtes pas un sadique, cruel, psychopathe, vous êtes vraiment hors norme, vous êtes une aberration. Et elle fait partie des 1% qui ont à peu près un cœur et une morale. Et bizarrement, les gens l'aiment moins. Donc.
Eh ben, c'est sur cette conclusion pleine d'optimisme sur l'espèce humaine que nous allons nous quitter cette table ronde. Ben voilà, j'étais très impatient de faire cette table ronde parce qu'on avait quatre univers très sensiblement différents les uns des autres. Et puis vous voyez que finalement, ben, on arrive à se rejoindre et à se recouper sur différents aspects. Je ne vous promets pas que si vous lisez... les livres de nos auteurs à la suite, vous n'allez pas finir totalement parano et avec un chapeau en aluminium sur la tête, mais quand même, faites attention quand même, soyez prudents, allez-y avec modération et espacez un peu les lectures. Merci beaucoup à toutes et à tous, et merci à Lionel pour la traduction.